Chapitre 141, où l'étoile de M. Rapt commence à pâlir. Lui, murmura sourdement en voyant le comte Rapt, le maréchal de Lamotoudan, dont le visage prit une expression sinistre, ce visage qui d'ordinaire n'exprimait que la douceur. Lui, répéta-t-il en jetant sur le comte des yeux étincelants, et en le regardant à la façon dont le tonnerre doit regarder le champ qu'il va enflammer. Le comte Rapt, nous l'avons vu à l'œuvre, était brave, hardi, audacieux, plein de sang-froid et de courage, et cependant, explique qui pourra ce phénomène, son sang-froid, son courage, sa hardiesse et son audace tombèrent tout à coup devant le maréchal, comme les remparts d'une ville assiégée devant l'ennemi vainqueur. Tant d'éclairs jaillirent des yeux du vieillard outragé, tant de menaces terribles lança son regard, que le comte, sans rien deviner, fit toute espèce de conjecture et frissonna involontairement. Il crut monsieur de Lamotte-Houdan devenu fou après la mort de sa femme. Il attribua la fixité de son regard à l'égarement, il prit sa colère pour du désespoir, et il songea à le consoler. Il essaya donc de recouvrer tout le calme nécessaire pour exprimer convenablement le chagrin que lui faisait éprouver la mort de la princesse et la part qu'il prenait à la douleur du maréchal. Il s'avança vers monsieur de Lamotoudan en inclinant la tête en signe de tristesse et de compassion. Le maréchal lui laissa faire 3 ou 4 pas dans la chambre. Monsieur Rapt dit d'une voix qu'il s'efforça de rendre émue, « Maréchal, croyez que je suis profondément touché du malheur qui vous arrive. » Le maréchal le laissa dire. Monsieur Rapt continua, « Le malheur a cela de consolant du moins qu'il nous rend plus cher les amis qui nous restent. » Le maréchal garda le silence. Le comte poursuivit, « En cette triste circonstance, comme en tout autre, croyez bien, monsieur le maréchal, que je suis tout à votre service. » C'en était trop. En entendant ces paroles, monsieur de Lamotte-Houdan bondit. « Mais qu'avez-vous, monsieur le maréchal ? » s'écria le comte Rapt épouvanté. « Ce que j'ai, misérable !» murmura à demi-voix le maréchal en s'avançant vers le comte. Celui-ci recula de 2 ou 3 pas. « Ce que j'ai, infâme, traître, lâche !» continua le maréchal, en regardant le comte comme s'il eût voulu le dévorer. « Monsieur le maréchal !» s'écria le comte Rapt, qui commençait à entrevoir la vérité. « Traître, infâme !» répéta monsieur de Lamotte-Houdan. « J'ai peur, monsieur le maréchal, dit en se dirigeant vers la porte le comte Rapt, que votre profonde douleur n'occasionne un trouble dans votre raison, et je vous demande la permission de me retirer. Hein, vous ne sortirez pas d'ici, dit le maréchal, en sautant du côté de la porte et en lui barrant le passage. « Monsieur le maréchal, objecta le comte en montrant du doigt le lit mortuaire, une scène pareille dans un lieu semblable, quelle qu'en soit la cause, ne saurait être plus de votre goût que du mien. Je vous prie donc de me laisser sortir. »« Non, dit le maréchal, c'est ici que j'ai appris l'offense, c'est ici que doit partir la réparation. » « Si je comprends, monsieur le maréchal, dit froidement le comte, vous avez, pour une raison ou pour une autre, une explication à me demander. Je suis à vos ordres, mais je vous le répète, dans un autre moment et dans un autre lieu. »« À cette heure et ici, répondit le maréchal d'une voix si impérieuse qu'elle ne souffrait pas de réplique. « Comme vous voudrez, dit laconiquement le comte. » « Connaissez-vous cette écriture ?» demanda le maréchal en tendant au comte Rapt le paquet des lettres. Le comte prit les lettres, les regarda et pâlit. « Connaissez-vous cette écriture ?» répéta monsieur de Lamotte-Houdan. Le comte Rapt devint pâle comme la mort et baissa la tête. « Ainsi, continua le maréchal, vous vous reconnaissez pour l'auteur de ces lettres ?»« Oui, répondit sourdement le comte. » Ainsi la princesse Regina est votre fille. » Le comte cacha son front dans ses mains. On eût dit qu'il cherchait à éviter la foudre qui, depuis son entrée dans la chambre mortuaire, grondait au-dessus de sa tête. « Ainsi, poursuivit le maréchal de Lamotoudan, qui semblait ne pas pouvoir prononcer ces paroles, ainsi, votre fille est votre femme. Devant Dieu, elle est restée ma fille, monsieur le maréchal, s'écria vivement le comte. Traître, infâme, murmura le maréchal, un être que j'ai tiré de la boue, que j'ai accablé de bienfaits, dont j'ai serré loyalement la main pendant 20 années, le voilà qui entre dans ma famille comme un honnête homme et qui pendant 20 ans me pille comme un voleur. Misérable! Mais une crainte, un remords n'est donc jamais entré dans votre cœur, votre âme est donc un bourbier fétide où l'air pur n'a jamais pénétré. Traître, voleur de mon bien et assassin de mon bonheur, et la pensée ne vous est pas venue un moment que je pouvais tout apprendre et que j'aurais à vous demander un terrible compte de vos 20 années de mensonges et d'infamie. Monsieur le maréchal, bégaya le comte Rapt. Taisez-vous, misérable, dit durement monsieur de Lamotoudan, et écoutez-moi jusqu'au bout. C'est moi qui vous ai appris à tenir une épée. Le comte ne répondit pas. « Est-ce moi, oui ou non ? » demanda le vieillard. « C'est vous, monsieur le maréchal, » répondit le comte. « Vous connaissez donc, » continua le maréchal, « dans ton bref, la façon dont je puis m'en servir. »« Monsieur le maréchal, » interrompit le comte, « taisez-vous, vous dis-je. Je suis donc sûr de vous tuer. » « Oh, vous pouvez me tuer tout de suite, monsieur le maréchal, » s'écria le comte Rapt, « car sur mon honneur, je ne me défendrai pas contre vous. »« Vous refuserez de vous battre contre un vieillard, » dit en ricanant sourdement le maréchal, « par respect pour ses cheveux blancs, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit résolument le comte. « Mais malheureux que vous êtes, » dit le vieillard en avançant vers le comte, les deux bras croisés, et se redressant de toute la hauteur de sa taille imposante. « Ignorez-vous donc que la colère donne des forces surhumaines, et que, si ce bras, » continua-t-il en allongeant le bras droit et en le mettant sur l'épaule du comte, « et que si ce bras s'appesantissait sur vous, il vous forcerait à vous courber à terre. » Soit que le poids du bras du vieillard fût véritablement d'une lourdeur extraordinaire, soit que la colère lui eût donné, ainsi qu'il le disait, des forces surhumaines, les jambes du comte fléchirent et il tomba à genoux sur le tapis au chevet du lit de la morte. « C'est cela, à genoux, » dit sévèrement le maréchal, « c'est la posture qui convient aux méchants et aux traîtres. Maudit sois-tu, toi qui as apporté dans ma maison le mensonge et la honte. Maudit sois-tu, toi qui m'as abreuvé d'outrage, toi qui m'as enseigné la haine, toi qui, par ton offense, me fais douter de l'humanité tout entière. Maudit sois-tu. » Oh, désolation! Cet homme vaillant, cet honnête homme, en s'approchant du comte pour le souffleter, pâlit et tomba sur le tapis, comme si le misérable traître qu'il menaçait et qu'il allait punir l'eût renversé. Un sourire de joie passa sur les lèvres du comte et illumina son visage. Il regarda le vieillard à terre comme le bûcheron regarde le chêne abattu. Il se pencha vers lui et l'examina froidement, comme le médecin examine le cadavre. « Monsieur le maréchal, » dit-il à demi-voix, mais le vieillard ne l'entendit pas. « Monsieur le maréchal, » répéta-t-il à voix basse en le secouant légèrement. Mais monsieur de Lamotte-Houdan resta immobile et silencieux. Le comte Rapt étendit sa main sur la poitrine du maréchal. Son front se rembrunit en sentant les battements du cœur. « Il vit, » murmura-t-il en le regardant d'un œil hagard. Puis, se levant brusquement, il tourna les yeux de côté et d'autre, cherchant je ne sais quoi, quelque instrument de mort sans doute, mais cette chambre de femme ne contenait ni pistolet, ni poignard, ni arme d'aucune sorte. Il s'approcha du lit de la morte et tira vivement à lui le drap qui la recouvrait. Mais, à son grand effroi, le bras droit de la morte se releva, tenant le coin du drap. Il recula, épouvanté. À ce moment, une ombre se dressa devant lui. « Que faites-vous ? » dit-elle. Il frissonna en reconnaissant la voix de la princesse Regina. « Rien, répondit-il durement, en lançant un regard terrible à la princesse, et il sortit brusquement, laissant la pauvre Regina entre le cadavre de sa mère et le corps inanimé du maréchal de la Motte-Houdan. La princesse sonna, et Grouska arriva, suivie du valet de chambre du maréchal. On fit revenir le vieillard à lui, et on le transporta dans sa chambre à coucher, où les soins de son médecin, accourus en toute hâte, le rappelèrent bientôt à la vie. Il regarda tout autour de lui en disant « Où est-il ? Qui, mon père ? » demanda la princesse. Ce mot de « père » que Regina lui donnait fit frissonner le maréchal. « Ton mari, dit-il avec effort, le contracte. « Désirez-vous lui parler ? » demanda la princesse. « Oui, répondit monsieur de la Motte-Houdan. « Je vous l'enverrai dès que vous serez mieux. « Je vais tout à fait bien, dit le maréchal en se relevant et en se redressant fièrement. « Je vais vous l'envoyer, mon père, dit la princesse, en cherchant à deviner dans les yeux du vieillard ce qu'il pouvait avoir à dire en ce moment au contracte. » Elle quitta la chambre à coucher, et un instant après, le contracte parut. « Vous désirez me parler ? » dit-il d'un ton sec. « Oui, répondit laconiquement le maréchal. « Je me suis laissé entraîner tout à l'heure envers vous à des menaces et à des violences inutiles. Je n'avais qu'une parole à vous dire, et c'est la seule que je ne vous ai pas dite. « Je suis à vos ordres, monsieur le maréchal, répondit le comte. « Vous daignerez vous battre avec moi ? » dit dédaigneusement le vieillard. « Oui, répondit résolument le comte. « À l'épée, naturellement. « À l'épée. « Sans témoin ? « Sans témoin, monsieur le maréchal. « Ici, dans le jardin ? « Où il vous plaira, monsieur le maréchal ? » Le maréchal jeta un regard sévère sur le comte. « Vous avez bien vite changé de résolution, dit-il. « J'ai reconnu, monsieur le maréchal, que mon refus était une nouvelle injure, répondit le comte. « Vous me ferez peut-être l'outrage de ne pas vous défendre ?»« Je me défendrai, monsieur le maréchal, je vous le jure, ajouta-t-il. « À votre guise, messieurs, mais que vous vous défendiez ou non, je ne vous ferai pas de quartier. » « Que la volonté de Dieu soit faite, » dit hypocritement le comte en levant les yeux au ciel, avec une onction dont l'abbé Bouquemont eût été fier. « Quant au jour, » reprit le maréchal, « ce sera le jour même des obsèques de madame la maréchale. Nous laisserons s'accomplir les funérailles et, au retour, nous nous retrouverons dans le rond-point du jardin. Tenez-vous prêt pour 7 heures. »« Je serai prêt, monsieur le maréchal. » « Bien, » fit de la tête monsieur de la Motte-Houdan en tournant le dos au comte. « Vous n'avez plus rien à me dire, monsieur le maréchal ? » demanda celui-ci. « Non, » répondit le vieillard, « vous pouvez vous retirer. » Le comte s'inclina respectueusement et sortit. Sur le seuil de la porte, il trouva la princesse Regina. « Vous ici ? » s'écria-t-il. « Oui, » dit à voix basse la princesse, « j'ai écouté, j'ai entendu, je sais tout. Vous allez vous battre avec le maréchal ?» « En effet, » dit le comte froidement. « Vous allez tuer ce vieillard ?» continua Regina. « Peut-être, » répondit le comte. « Vous êtes infâme !» s'écria la princesse. « Et plus infâme encore que vous ne croyez, princesse, car je compte, avant le duel, renseigner le maréchal sur tout ce qu'il ignore. « Que voulez-vous dire ? » demanda avec effroi la princesse. « Veuillez passer chez vous, et je vais vous en instruire, » dit le contracte, « le lieu où nous sommes ne me paraissant pas convenable pour un tel entretien. »« Je vous suis, » répondit la princesse. Nous dirons dans le chapitre suivant le résultat de la conférence du contracte et de la princesse Regina.